RFI, grand reportage,
Amélie Tullet.
Bonjour à tous, grand reportage vous amène aujourd'hui au Somaliland, un petit état de 3,5 millions d'habitants au nord de la Somalie, un pays fantôme non reconnu par la communauté internationale malgré son gouvernement, son drapeau et sa police. Un pays qui, depuis qu'il a déclaré son indépendance du reste de la Somalie en 91, a pourtant réussi à organiser 3 élections présidentielles et à sécuriser son territoire. Cela ne l'empêche pas aujourd'hui de perdre sa jeunesse, qui s'engage sur des routes migratoires pour rejoindre l'Europe. Au Somaliland, cet exil a un nom, le Tarib, et il est considéré comme une catastrophe nationale. Tarib, l'exode des jeunes somalilandais, un grand reportage de Laure Broulard.
Il pleut sur Hargeisa. Assise dans son petit salon humide, Radra Hassan est enveloppée dans un voile vert émeraude. Cette veuve au corps fragile se souvient avec douleur de sa fille Beja, partie il y a plus d'un an.
Elle venait de finir le lycée, mais nous ne pouvions lui payer l'université. Et puis elle voyait sur Facebook la vie de ses amis partis en Europe. Alors elle a essayé de partir. La première fois, elle a réussi à aller jusqu'à Ouachale, à la frontière avec l'Éthiopie, mais nous avons réussi à la stopper grâce à l'aide de notre famille et de nos amis. La deuxième fois, elle est montée jusqu'à Diredawa, en Éthiopie, mais nous avons également réussi à la faire revenir. La troisième fois, les autorités l'ont arrêtée à la frontière et l'ont mise en prison avant de la renvoyer chez nous. Mais la quatrième fois, les passeurs l'ont prise en charge directement à Hargeisa et l'ont emmenée sans que nous ne sachions rien. Je l'ai cherchée pendant 1 mois et 10 jours.
Comme de nombreux jeunes somalilandais, Beja a choisi la voie de l'exil, sans que rien ni personne ne puisse lui faire changer d'avis. C'est dans le plus grand secret qu'elle a contacté un passeur et organisé son voyage vers l'Europe, en passant par l'Éthiopie, le Soudan et la Libye. Une décision qui a plongé sa famille dans la pauvreté et l'angoisse. Sa mère a d'abord dû envoyer 2 500 $ à un trafiquant qui la retenait au Soudan. Pour cela, elle a vendu ses bijoux en or et demandé de l'aide à la famille et au clan. Mais quelques semaines plus tard, le scénario s'est répété.
Aujourd'hui, elle est en Libye, dans les mains d'un trafiquant. Elle nous demande 5 000 $ que je suis en train de récolter. J'en ai une petite partie, mais pour le reste, je dois demander de l'aide. Je suis vraiment très inquiète. Qui sont ces gens qui la retiennent? Des humains ou des animaux? Nous ne pouvons même pas communiquer avec eux. Ils nous appellent avec des numéros cachés. Ils nous disent « envoyez l'argent », puis ils raccrochent. Et la semaine d'après, il recommence. Envoyez l'argent, puis il raccroche. Mais mes enfants sont orphelins de père. Et vous savez, le clan n'est pas généreux avec les orphelins. Mes frères continuent de demander de l'argent à notre communauté. Et de mon côté, j'essaie d'économiser avec ce que je gagne en vendant du thé et en vendant le lait de mes brebis.
Beja est partie en Tarib, comme on dit au Somaliland. Ce mot d'origine arabe, signifiant « fuir » ou « partir en cachette », est aujourd'hui utilisé par les Somalilandais pour désigner la migration illégale des jeunes vers l'Europe. Contrairement à l'émigration traditionnelle des populations somalies vers les pays du Golfe, soutenue par les familles désintéressées, le Tarib est aujourd'hui synonyme de tragédie pour les familles somalilandaises qui tentent de retenir leurs enfants à tout prix. Quelques rues plus loin se trouve la maison de Sofia Moussa. Elle a poursuivi son fils jusqu'à la frontière éthiopienne et contacté les autorités pour tenter de l'arrêter. Mais une fois qu'il est passé au Soudan, il n'y avait plus rien à faire. Il a ensuite été retenu en otage par 2 trafiquants différents, puis dans un centre de détention libyen. En tout, Sofia a dépensé 9 000 $ pour le voyage de son fils, aujourd'hui à Malte et sans emploi. Et malgré sa tristesse, elle ne cache pas sa colère.
Cela a eu d'énormes conséquences sur nous. Nous avons emprunté tellement d'argent à tellement de gens. Nous devons rembourser maintenant. Certains cousins ne veulent plus nous parler aujourd'hui car nous ne cessons de leur demander de l'argent. J'ai pourtant tout fait pour retenir mon fils. On lui montrait les informations sur la Libye, les gens qui se battent là-bas. On lui parlait des gens qui meurent dans le désert ou dans la mer. Mais il me répondait « un homme ne meurt qu'une fois ». Il était vraiment têtu. Mes autres enfants, je tente de les retenir de toutes mes forces. Car dans ce quartier, certaines familles ont perdu 2 ou même 3 enfants. Donc nous, les mères, nous ne dormons plus, nous ne mangeons plus. Alors on se retrouve et on essaie d'aider les enfants pris en otage. Nous partons dans la ville à la recherche de gens généreux. On demande des prêts. C'est vraiment difficile.
Aujourd'hui, près de 80% des migrants originaires de la Corne de l'Afrique seraient victimes de trafic d'êtres humains sur les routes migratoires, selon le Conseil danois pour les réfugiés. L'Organisation internationale pour les migrations décrit quant à elle, dans un rapport de 2016, un réseau étroit d'intermédiaires, de passeurs et de trafiquants présents dans les différentes villes somaliennes pour organiser les départs. Depuis quelques années, les passeurs proposent également une formule communément appelée « Leave now, pay later » ou « Pars maintenant, paie plus tard » qui permet aux jeunes migrants de faire la première partie du voyage gratuitement, puis de payer en cours de route. Saïd Abdullahi Ahmed, directeur de l'ACAD, l'agence somalilandaise de lutte contre le trafic d'êtres humains, dresse un tableau alarmant de la situation.
Ce sont des organisations criminelles qui mentent aux gens en leur parlant d'une vie paradisiaque en Europe. Ils disent aux jeunes « Venez avec nous, vous paierez plus tard ». Mais à partir du moment où ils passent la frontière somalilandaise, ils deviennent otages et ils le restent jusqu'en Libye. Il y a 4 ou 5 ans, on voyait plutôt un flot important de migrants irréguliers. Ça a baissé. Mais là, c'est différent. C'est du trafic d'êtres humains. Et ça a augmenté. Et c'est un phénomène qui demande une action concertée et régionale. Beaucoup a été fait jusqu'ici par différentes organisations et différents pays. Nous, à l'ACAD, nous sommes censés enquêter sur les transactions financières de ces trafiquants, leurs moyens de communication, où ces réseaux sont basés. Et nous devons maintenant engager des poursuites. Mais nous avons un problème législatif. Nous utilisons des lois anciennes, faites seulement pour la migration illégale. Du coup, les trafiquants et passeurs arrêtés dans les 8 derniers mois ont été condamnés à 2 ou 3 ans de prison avec sursis et ont dû payer 2 000 ou 3 000 dollars et ont pu sortir.
Cela devrait bientôt changer. Un projet de loi sur le trafic d'êtres humains est en passe d'être voté par le Parlement du Somaliland. Il définit les crimes liés au trafic de migrants et alourdit les peines. Malgré l'absence de statistiques officielles, l'ACAD estime que plusieurs centaines de jeunes somalilandais sont aujourd'hui détenus en Libye. Et si les départs semblent avoir baissé après un pic en 2015 et 2016, le HCR a recensé 2225 arrivées de migrants d'origine somalienne sur les côtes européennes l'année dernière. Derrière un rideau de perles, une dizaine de jeunes femmes s'affairent autour des clientes, appliquant du henné ou du vernis à ongles. Rama, petite coiffeuse aux joues rondes et au regard enfantin, est autorisée à prendre une pause pour parler de sa tentative de tahrib. Elle se souvient de la date exacte, c'était le 18 août 2016. Elle avait pris sa décision dans le but, dit-elle, de changer de vie. Et elle n'avait eu qu'à avancer 150 dollars pour le trajet Hargeisa Addis Ababa. Mais elle était tout à fait consciente des conséquences de son départ sur ses proches.
Vous savez, c'est très difficile et très cher d'obtenir un visa pour voyager. Mais nous avons un dicton en Somalie qui dit « L'argent est toujours disponible en cas d'urgence ». C'est pour cela que j'ai choisi le tahrib, car c'était moins cher pour moi et que je savais que toute la communauté allait se mobiliser pour me sauver et m'aider au cours de ma route.
Et est-ce que vous aviez prévenu votre famille de votre départ ?
Non, je voulais que cela reste secret jusqu'à ce que j'ai atteint un point de non-retour. Entre-temps, mes proches allaient s'inquiéter, ils allaient payer. Quand j'ai contacté le passeur, tout semblait vraiment si simple. Il m'avait dit que c'était seulement une question d'argent. Mais une fois parti, nous avons vécu des choses particulièrement difficiles. C'était totalement différent de ce qu'il nous avait dit.
Après avoir marché plusieurs heures dans la nuit pour passer la frontière éthiopienne, elle est enfermée avec ses compagnons de route dans une baraque de terre, sans toilette, pendant 3 jours, avec seulement quelques bouts de pain en guise de nourriture. C'est après avoir subi une tentative de viol qu'elle réussit finalement à faire demi-tour, transportant sur plusieurs kilomètres une de ses amies inconscientes.
Avant, je pensais que le tahrib était facile, qu'il ne m'arriverait rien. Aujourd'hui, je n'écouterai plus jamais une personne qui tenterait de me parler de tahrib, sauf s'il est possible de partir en avion, car ça me conviendrait. Mais si je devais choisir entre le tahrib et la mort, eh bien, je choisirais de mourir, car le tarib me ferait bien plus souffrir.
Je m'appelle Yasmine Mohamed Kahin. Je vis à Hargeisa, au Somaliland, et je suis poète et dramaturge.
Sur quoi est-ce que vous écrivez principalement?
Souvent, j'essaie de faire de la sensibilisation sur le sort des minorités ou sur le tahrib, la migration. Lorsque je vois que mon peuple fait mal les choses, j'essaie de lui montrer le chemin à travers mon art.
De quoi est-ce que vous parlez dans cette chanson?
I was doing a tour.
Je parle du tahrib. C'était dans la région de Berbera. J'y étais dans le cadre d'une tournée que je fais depuis 4 ans, car j'essaie de faire de la sensibilisation à travers le théâtre et la poésie. Je pense qu'entre camarades, on peut se parler. Moi, je suis encore jeune, donc je peux parler aux gens de mon âge, et ils comprennent ce dont je parle.
Aujourd'hui, rares sont ceux qui ne connaissent pas les dangers de la route. De nombreux artistes, à l'image de Yasmine, ont dépeint dans leurs œuvres les conséquences du tahrib. Les naufrages en Méditerranée ont été largement relayés par les médias. Et puis, ceux qui ont été rapatriés de Libye via les programmes de l'OIM font maintenant le tour des écoles avec l'aide d'ONG pour raconter leur histoire. Pourtant, aux terrasses des cafés de la capitale somalilandaise, les jeunes désœuvrés continuent de rêver d'ailleurs. Cher Madar, le plus ancien, mais aussi l'un des plus pauvres quartiers d'Hargeisa. Ici, les petites maisons construites du temps du protectorat britannique côtoient les baraques de tôle et les voitures disputent la chaussée aux chèvres. Il est 15h, la prière vient de s'achever et trois jeunes garçons font passer le temps en discutant autour d'une tasse de thé. L'un d'eux, Mustafé, accepte de parler dans les petites pièces privées caractéristiques des restaurants somalilandais.
Je m'appelle Ahmed Mustafé, j'ai 23 ans.
Quelle est ta profession?
Je n'ai pas de travail, mais je n'en cherche pas vraiment ici. Je veux partir faire le tahrib pour trouver un travail en Europe, aux États-Unis ou au Canada.
Pourquoi est-ce que tu veux tellement partir?
La situation de ma famille est critique. Nos assiettes sont souvent vides. Il est donc de mon devoir d'améliorer la situation économique de ma famille. Ici, si tu n'as pas de contact au gouvernement ou dans les grandes entreprises, tu ne peux pas avoir un travail digne de ce nom. Ce qui nous reste à nous, ce ne sont que des petits boulots. Et ça n'est pas assez pour que je m'occupe de ma famille. Donc je dois aller dans un endroit où mon travail aura plus de valeur, et ça ne sera pas en Afrique. Je sais bien que c'est très risqué, mais c'est mieux que de rester ici à attendre, à rêver et à désirer. Je sais que beaucoup ont perdu la vie, mais j'ai un but, je veux aider ma famille et je suis prêt à tout pour cela.
Mustafé sait bien que ses proches auront beaucoup de mal à payer pour sa libération s'il est pris en otage. Il veut donc rassembler lui-même les 7 000 $ nécessaires et il est allé jusqu'à Addis Ababa pour discuter avec des passeurs. Jusqu'ici, en vain. Selon un rapport du centre de recherche Uyuh Valley Institute, publié en 2016 et intitulé « Partir en tahrib », les raisons de la migration des jeunes sont multiples. Il y a d'abord le chômage, qui touche environ 70% des moins de 30 ans, mais aussi l'attrait des diplômes étrangers, ainsi que l'influence des camarades déjà partis et des amis voulant partir. De l'autre côté de la ville, dans les jardins de l'université d'Hargeisa, les étudiants se dirigent en petits groupes vers les salles de classe.
Nasir Ali, directeur de l'Institut des études sur la paix et les conflits, reçoit dans son bureau. Ce professeur lit l'exil des jeunes Somalilandais au statut fantôme du pays et à la fragilité de l'État. Car bien qu'il ait organisé 3 élections présidentielles multipartites et réussi à sécuriser son territoire, le Somaliland n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale qui soutient le gouvernement fédéral somalien installé à Mogadiscio.
Il n'y a aucune opportunité pour les jeunes ici. Pour être honnête avec vous, au Somaliland, le gouvernement est très fragile. Il n'a pas la capacité de créer des emplois pour ceux qui veulent travailler. Il n'a pas la capacité de soutenir la création d'un secteur industriel. Et c'est principalement à cause du manque d'investissement direct étranger. Donc, le fait que notre État ne soit pas reconnu par la communauté internationale l'empêche d'absorber la force de travail des jeunes qui préfèrent s'en aller. Et même si le Somaliland est en capacité de fournir des services à ses citoyens, ainsi que d'assurer leur sécurité, tout cela est très limité, parce que nos institutions ont besoin de soutien et doivent être améliorées. Il y a donc toute une série de facteurs qui contribuent à la fragilité de l'État somalilandais. Mais le facteur principal, c'est ce manque de reconnaissance internationale. Mais bon, nous nous attendons à ce que les choses changent. Lors de la dernière campagne pour la présidentielle, l'actuel chef de l'État a promis que s'il était réélu, il mettrait en place un service national de la jeunesse. Cela veut dire qu'il y aurait une commission qui pourrait employer des diplômés de l'université afin de servir la nation pendant une année, au terme de laquelle les jeunes recevraient un certificat de participation. Normalement, le gouvernement devrait lancer ce programme en janvier, si tout cela se concrétise. J'espère que cela endiguera la migration des jeunes.
Je m'appelle Jama Moussé Jama et je suis né dans cette belle ville qu'est Hargeisa, qui est aujourd'hui la capitale du Somaliland. Mais quand je suis né, elle faisait partie de la République somalienne. Et ici, nous sommes au centre culturel de Hargeisa.
We are here at the cultural center, Hargeisa cultural center.
Bouc poivre et sel et chapeau de cow-boy sur la tête, Jama Moussé Jama, directeur de la Fondation culturelle de la Mer Rouge, fait visiter avec fierté le centre culturel qu'il a créé. Docteur en mathématiques, ce Somalilandais passionné des arts et des lettres a fait de la préservation et de la promotion de la culture somalilandaise son cheval de bataille. Il est à l'origine de la construction de la première bibliothèque de la capitale, ainsi que du Salon du Livre d'Hargeisa, lancé il y a 11 ans et qui attire aujourd'hui des milliers de visiteurs. Il est 21h passées et sur une grande scène recouverte de velours rouge, des adolescents costumés répètent une pièce de théâtre et des danses traditionnelles somaliennes. D'autres regardent avec attention, assis sur des chaises en plastique.
Quand je suis né, il y avait 300 000 habitants à Hargeisa. Aujourd'hui, la population atteint presque le million. Et selon les statistiques, 62% des habitants de la ville ont moins de 30 ans. Parmi eux, 85% ont moins de 25 ans. Et pourtant, dans cette ville qui a une telle énergie, il n'y a pas de théâtre, pas de cinéma, pas de lieu, à la seule exception de notre centre culturel. Et là, les jeunes peuvent faire ce qu'ils font ce soir, par exemple, répéter pour une pièce qu'ils ont écrite eux-mêmes. Et ça, c'est une situation intenable. Nous avons la paix, la stabilité, mais ce n'est pas assez. Les jeunes ne quittent pas ce pays à cause d'une guerre, mais parce qu'ils n'entrevoient aucun espoir, qu'il n'y a pas de place pour eux, qu'ils n'ont pas accès à l'espace public. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Alors, au lieu de rester enfermés dans une cage, ils choisissent de s'enfuir.
Accroché au mur, un tableau retient l'attention. Sur la toile, un monstre, mi-homme, mi-chêne, retient une femme enceinte dans un de ses maillons et presse un téléphone portable contre son oreille. À l'autre bout du fil, dans une bulle, on distingue une mère en pleurs. Tarib, l'exode des jeunes somalilandais, un grand reportage de Laure Broulard, réalisation Eva Moschinski.